Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Si vous voulez bien ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Luc au chapitre 20, nous allons revenir à la semaine de la Passion du Christ, la semaine de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, et nous allons regarder au texte suivant de la série que Luc nous donne afin de passer en revue à la fois l'histoire terrestre et spirituelle de cette grande semaine. Luc, chapitre 20. Je voudrais commencer à lire au verset 9 qui fait partie de la parabole que nous venons d'étudier, car elle est essentielle pour comprendre ce qui suit, ce que nous allons voir ce matin. Luc, chapitre 20, verset 9. Je commence la lecture. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent « À Dieu ne plaise !» Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes à la voix de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple. Mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. L'histoire d'Israël est un long et tragique récit de rébellion contre Dieu, de péché contre Dieu, de l'indifférence face à la révélation de Dieu, de désobéissance à la loi de Dieu et à la volonté de Dieu. Même au point de tuer les prophètes, de tuer les messagers qui sont venus pour offrir la grâce, la miséricorde et le pardon, la bénédiction, le salut et la vie éternelle. Et la guerre contre Dieu atteint le sommet avec le meurtre du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Cette histoire se résume à la parabole que j'ai lue, du verset 9 au verset 18. Malgré toute la révélation prophétique de l'Ancien Testament qui pointe infailliblement en direction de Jésus-Christ, cette génération qui accomplira cet acte final décrit dans la parabole « Tuer le Fils » rejette celui qui est sans contestation possible le Messie. Ils avaient entendu parler de sa naissance virginale, de sa vie sans péché, de ses paroles divines, de ses œuvres divines. Ils savaient qu'il avait la puissance sur les démons, la maladie, la mort. Ils connaissaient son autorité sur le monde créé pour apaiser les eaux et le vent et créer de la nourriture. Il savait qu'il leur offrait le royaume de Dieu, le salut, la vie éternelle, la bénédiction. Et toutes ces choses qui étaient vraies à son sujet étaient liées aux promesses et prophéties de l'Ancien Testament. Pourtant, selon le schéma qui se répétait dans l'histoire d'Israël, il le rejetait sans jamais nier son pouvoir, sans jamais nier ses miracles, sans jamais nier sa sagesse. Ils l'ont tout de même rejeté, et cela a commencé par les leaders et l'influence des leaders sur la nation. Pourquoi les chefs religieux, l'élite intouchable, les érudits de l'Ancien Testament et les théologiens, ceux qui étaient plus religieux que les autres, ceux qui étaient supposés être plus en harmonie avec Dieu et les Écritures que les autres, pourquoi le rejetaient-ils? La réponse n'est pas compliquée. La réponse est que leur cœur était dominé par le péché, le plus laid des péchés, comme nous allons le voir. Laissez-moi vous décrire la situation. Nous sommes le mercredi de la semaine de la Passion, mercredi. D'ici vendredi, Jésus sera crucifié. Ce mercredi, Jésus passe la journée dans le temple entouré de nombreuses personnes venues à Jérusalem, car c'était la période de la Pâque. Lorsque Jésus est entré dans la ville, dans l'euphorie de l'espérance, ils voulaient qu'il soit le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils lui ont donc fait un accueil triomphal, et le mercredi, il s'attachait toujours à tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il disait, mercredi dans le temple. Il enseigne ses foules. Mais parmi la foule, les chefs religieux sont présents. Il y a sans cesse des confrontations entre Jésus et ses chefs religieux. La foule veut simplement l'entendre prêcher. Ils veulent que Jésus dise les choses qu'ils ont hâte d'entendre. Les chefs religieux veulent le prendre au piège de ses propres paroles. Le peuple sait qu'il fait des miracles. Ils savent qu'il a ressuscité Lazare. Ils veulent qu'il soit le Messie qu'ils attendent depuis longtemps, et à ce moment-ci, le mercredi, ils espèrent toujours qu'il est vraiment ce Messie. Les choses ne se sont pas retournées contre lui, mais les leaders le haïssent depuis longtemps. Ils le haïssent depuis des années. Ils le veulent mort et ils veulent sa mort rapidement. Ils obtiendront ce qu'ils veulent d'ici le vendredi. La même foule qui criait « Hosanna » le lundi criera « Crucifiez-le » le vendredi. C'est un grand virage à 180 degrés. Les leaders religieux sont essentiellement les artisans de ce grand changement. Ils sont très intelligents. Comment peut-on inverser l'opinion de centaines de milliers de personnes en quelques jours? Passant des acclamations destinées à un supposé Messie à vouloir faire couler son sang comme s'il était un criminel ou un imposteur. Ils ont un génie malveillant et ils veulent sa mort chaque jour davantage, chaque heure davantage, et tout ce qu'il dit intensifie leur animosité. Chaque confrontation aiguise encore leur objectif et leur intention. Au moment où commence notre texte, au verset 19, ils sont arrivés à un point de fiévreux désespoir. Jésus est populaire, largement populaire. Il attire l'attention des foules et il dit les choses qui sont destructives pour ses chefs religieux. Et les gens le savent. Lisez le verset 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, pour les chefs religieux. Ils étaient en train de comprendre, Jésus n'enseignait pas seulement de la théologie, il exposait au peuple combien ses chefs religieux étaient faux. Ce sont aussi eux qui conduiront l'exécution du Fils de Dieu. Les enjeux étaient très grands. Le peuple était en faveur de Jésus et de plus en plus contre les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, contre toutes les sectes qui constituaient le groupe de chefs religieux, puissants et influents. Ils doivent arrêter ça. Ils doivent inverser l'opinion de la foule. Ce n'est pas une tâche facile. S'ils avaient le choix, ils le lapideraient sur place, selon la bonne vieille méthode juive. Trouver une corniche, le jeter par-dessus bord et l'écraser sous des pierres. Ils ne peuvent pas faire ça. César leur a enlevé le droit d'exercer la peine capitale. César a le pouvoir de prendre les vies, pas les juifs. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils doivent trouver un moyen de se débarrasser de Jésus, de préserver leur propre situation et de faire virer de bord la foule à 180 degrés. Et dans ce texte, nous voyons leur génie malveillant à l'œuvre. Il y a plusieurs façons d'aborder ce texte afin de le comprendre, mais je pense que ce qui est peut-être le plus direct est de regarder sous l'angle de l'ensemble des péchés et de l'appeler la diagnose des personnes qui rejettent Christ. Faire un peu de pathologie spirituelle en examinant tous ces péchés qui caractérisent leur effort. Commençons par le péché de la haine dans le verset 19. C'était la réalité dominante. Il haïssait Jésus. Au verset 19, il est écrit « Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. S'ils avaient le choix, ils l'auraient pris sur le fait. » On mentionne ici les scribes et les pharisiens. Les scribes, vous savez, sont les érudits, les hommes de loi, les théologiens. Les prêtres principaux étaient ceux qui étaient les prêtres les plus haut placés. Il y avait aussi, selon Matthieu, et Matthieu rapporte ce même incident dans Matthieu 22. Marc le rapporte dans Marc 12. Il y a trois différents rapports qui concordent parfaitement, et je ferai référence à certains autres au fur et à mesure que nous avançons. Dans Matthieu 22, au verset 15, il est dit que les pharisiens étaient inclus. Nous avons donc les prêtres principaux, les scribes et les pharisiens. À ce moment-là, la haine des prêtres principaux, des scribes et des pharisiens est très bien établie. Matthieu nous dit qu'il y avait un autre groupe présent, et Marc aussi. C'était les Hérodiens. Les Hérodiens représentent une autre secte. Ils constituent le parti politique des Juifs pro-Hérode. Ils peuvent être considérés comme des intrus. Les Juifs n'aimaient pas particulièrement les Hérodiens. Ils n'étaient pas Juifs. Ils étaient Asmonéens. Et pourtant, ils avaient un certain pouvoir exécutif et législatif sur la terre d'Israël. Ce n'était pas une situation acceptable pour les Juifs, particulièrement pour les pharisiens et d'autres qui étaient zélés pour le judaïsme. Mais certains considéraient opportun d'être pro-Hérode car les Hérodiens étaient riches et puissants. Les pharisiens haïssaient en fait les Hérodiens, car les Hérodiens étaient de purs politiciens qui voulaient être attachés au pouvoir en place et ils savaient que pour cela il fallait jouer le jeu de Rome. Les pharisiens voulaient bien aller un peu dans ce sens, mais pas au même degré que les Hérodiens. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, les pharisiens et les Hérodiens peuvent s'associer pour se débarrasser de Jésus. Et ce n'est pas nouveau. Dans Marc 3, au verset 6, il est écrit « Tout au début du ministère de Jésus en Galilée, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. » Ils ont donc établi une alliance pour se débarrasser de Jésus littéralement depuis des années. Tout le monde est d'accord sur ce point. Les scribes, les pharisiens, les prêtres, les hérodiens, certains prêtres sont sans doute aussi des sadducéens. Les sadducéens étaient des religieux libéraux. Les pharisiens étaient des fanatiques et fondamentalistes religieux. Les hérodiens étaient ceux qui avaient une motivation politique. Ils étaient tous ensemble avec les théologiens appelés scribes. Tous avaient le même but, se débarrasser de Jésus. Voici donc le groupe d'experts juifs de l'époque. Et Matthieu nous dit qu'ils complotaient ensemble. Il s'agit d'une rencontre unilatérale de haut niveau, une rencontre de tous les esprits dans un seul but, se débarrasser de Jésus. Et ils voulaient vraiment mettre la main sur lui dans l'heure qui suivait. Ils ne voulaient pas attendre plus longtemps. Ils voulaient le prendre et le tuer, mais ils ne le pouvaient pas. Pourquoi ? Ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. S'ils faisaient quoi que ce soit qui ressemble à ce que Jésus a dit qu'il ferait, il créerait alors l'accomplissement d'une prophétie qui attirerait la colère du peuple sur eux. Ils devaient faire très attention. Ils devaient trouver un moyen, pensez-y, pour faire évoluer cette énorme populace d'une attitude positive envers Jésus vers une attitude négative. Du fait de le vouloir comme roi, jusqu'à vouloir sa mort. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir faire cela? Il n'y avait qu'une seule façon de le faire. Il n'y avait qu'un seul pouvoir d'exécution dans le pays, et c'était Rome. Finalement, c'était Rome qui devait le tuer. Mais ils n'avaient pas besoin qu'il meure pour que les gens se retournent contre lui. Tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'était pousser Rome à l'arrêter. Ils étaient contre Rome, tous, vraiment. Ils usaient de toutes les ruses possibles contre Rome afin de garder leur pouvoir. Mais ils haïssaient tout ce qui était romain, et ils savaient que la populace méprisait tout ce qui était romain. Mais ils avaient besoin de l'aide de Rome, non seulement pour exécuter Jésus, mais ils avaient besoin de Rome pour l'arrêter, et rapidement. Comment allaient-ils faire cela? Rome était hypersensible à un délit en particulier, l'insurrection. L'insurrection. Ils étaient très fiers de la Pax Romana, conserver la paix romaine. Ils se targuaient de réprimer les rébellions. Ils s'enorgueillissaient de l'exécution des insurgés et des rebelles. Ils devaient prendre Jésus au piège en train de prononcer une parole d'insurgé, et les Hérodiens feraient un rapport sur lui, car ils avaient tous les moyens de communiquer avec les Romains, qui exécuterait vite ce rebelle, comme il l'avait fait pour d'autres. Les pharisiens, les scribes, les prêtres principaux et les hérodiens s'associent donc. Ils organisent cette réunion de planification pour trouver une stratégie. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de faire arrêter Jésus par les Romains. La population se retournerait alors contre lui. Pourquoi ? Parce que le peuple croyait que l'Ancien Testament promettait un Messie qui viendrait établir un royaume, n'est-ce pas ? Et ils n'avaient pas tort. Ils pensaient que le Messie viendrait établir son royaume à Jérusalem, en Israël, délivrer Israël de toute la domination des gentils. Israël deviendrait alors la première nation du monde. Ils pensaient qu'en venant, le Messie établirait un royaume qui briserait la tyrannie des gentils, des païens, des blasphémateurs et des idolâtres. Toute personne qui voulait être un Messie, toute personne qui voulait être acceptée comme étant le Messie, devait être contre les gentils, contre Rome. Et s'ils pouvaient faire passer Jésus pour un contestataire de Rome, Rome interviendrait rapidement. Dès que ce soi-disant Messie montrerait que Rome a le dessus sur lui, et que lui n'a pas le dessus sur Rome, alors cela montrerait qu'il ne pouvait pas être le Messie. Comment allaient-ils arriver à cela ? Comment vont-ils donner l'impression que Jésus est un dangereux révolutionnaire ? Les Romains savaient déjà qu'il avait de l'influence sur une foule de personnes. Ils ont vu cela de leurs propres yeux auparavant. Et Pilate était à Jérusalem à ce moment-là, bien qu'il ne soit pas toujours présent sur place. Il demeurait ailleurs. Il était là parce que c'était la Pâque et la population de la ville avait beaucoup augmenté à cause des pèlerins. Il était présent afin de s'assurer de garder le contrôle de la situation. Il devait faire en sorte que les Romains arrêtent Jésus. Et cela prouverait que finalement il n'était pas le Messie. Alors, comment allait-il faire pour que Rome l'arrête ? Il devait faire cela, puis, de retour au verset 20, à la fin du verset, il pourrait « le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur ». C'était tout ce qu'il voulait. Nous voyons donc ici une rage impuissante. Ils haïssaient vraiment Jésus. Leur haine devient fiévreuse. Ils veulent sa mort, mais ils doivent protéger leur propre situation, car ils ont peur du peuple. Ceci décrit leur haine et aussi un second péché, leur orgueil. Leur orgueil. Dans cette affirmation du verset 19, « Ils craignirent le peuple », ils avaient compris que c'était sur eux que Jésus avait dit cette parabole. « Ils étaient ceux qui étaient les meurtriers du Fils de Dieu », disait Jésus. « Ils craignaient le peuple ». Pourquoi craignaient-ils le peuple ? Ils craignaient de perdre l'estime, la confiance du peuple. Vous voyez, l'acceptation, l'honneur, le respect leur venaient du peuple. Ils s'en nourrissaient. En fait, tout cela était essentiel pour nourrir leur ego et leur propre justice. Ils aimaient beaucoup attirer l'attention. Ils aimaient porter certains vêtements et agir de certaines façons. Et continuer à se comporter de telle façon qui attirait l'attention des gens et leur donnait l'air pieux, sain, haut placé et supérieur. Ils recherchaient des places des personnes importantes dans les banquets, dit Jésus dans Matthieu 23. Ils voulaient que les gens les appellent pères, professeurs, maîtres. Ils avaient besoin du peuple comme tous les faux leaders religieux. Toute leur puissance, tous leurs honneurs, toute leur estime, leur situation, toute leur importance venait du peuple. Et le peuple était encore alors sous l'influence de l'entrée triomphale de Jésus, qui pourrait bien être le Messie. Dans Matthieu 21, verset 46, ces leaders craignaient la foule, parce qu'elle tenait Jésus pour un prophète. Il était au moins un prophète. Ils avaient peur de s'engager contre la foule, car ils avaient besoin de la foule. Au fait, les paroles du Nouveau Testament, les paroles de notre Seigneur lui-même, dans Matthieu 23, nous disent que ces leaders n'avaient pas d'amour pour le peuple. Pas d'amour pour le peuple. En fait, ils utilisaient le peuple et ils le trompaient. Ils mettaient sur eux de lourds fardeaux, le poids du légalisme, et ne levaient pas le petit doigt pour les aider à porter ces fardeaux. Jésus disait qu'il mettait sur eux un joug que personne ne pouvait porter. Il régnait en utilisant la crainte et l'intimidation comme règnent et travaillent les faux chefs religieux. Ils maintiennent les gens sous la crainte que, s'ils ne leur obéissent pas, s'ils ne font pas ce qu'ils disent, ils iront en enfer. Ils passeront à côté du royaume de Dieu. Ils en ont fait des fils de l'enfer. Ils les ont rendus pires à cause de leur fausse doctrine. Ils n'avaient que du mépris pour les gens. Ils les méprisaient, les voyaient inférieurs à eux. Ils ne les invitaient jamais chez eux, ou à leur repas de midi, ni du soir, ni à leur banquet. Ils n'avaient aucun contact avec eux. Ils ne cherchaient pas à satisfaire Dieu, mais ni à satisfaire les hommes non plus. Ils se complaisaient en eux-mêmes et nourrissaient leur âme orgueilleuse en recevant les accolades de ceux qu'ils intimidaient et qu'ils trompaient. Ils savaient que si Jésus était arrêté par les Romains, les espoirs que le peuple mettait en Jésus seraient anéantis, et ils se débarrasseraient de lui tout en préservant leur importance. Ils étaient donc pleins de haine et d'orgueil. Ils devaient trouver un autre moyen, car ils ne pouvaient pas simplement l'attraper ou le saisir et l'emmener soit pour le tuer ou pour le livrer aux Romains, qui le feraient tuer, jusqu'à ce qu'ils aient une raison de le faire. S'ils faisaient cela, sans raison apparente, face au peuple, le peuple se retournerait contre eux. Ils doivent donc faire changer l'attitude du peuple. Cela les a conduits à un troisième péché dans cet ensemble de péchés, l'hypocrisie. Ils doivent jouer le jeu auquel ils étaient si adeptes, le jeu de l'hypocrisie. Tous les faux leaders religieux sont hypocrites de tout temps et toujours. Et ils sont maîtres dans l'art de se déguiser. Le verset 20 dit « Ils se mirent à observer Jésus. Surveillance. Ils l'observaient. Que cherchaient-ils ? Ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Le but de leur stratégie était de le livrer à Pilate, le gouverneur romain qui représentait César, dont la tâche était de s'assurer qu'il n'y avait pas de trouble en Israël, qui s'occupait des rebelles et des insurgés. Ils devaient se débarrasser de lui pour le livrer au gouverneur. Afin de le livrer au gouverneur, il devait le prendre en train de déclarer quelque chose qui donnerait envie aux Romains de l'arrêter et de le tuer. Afin de le prendre sur le fait, il devait le saisir au bon moment. Et donc ils l'observaient et ils envoyèrent des espions qui avaient l'air de personnes honnêtes en quête de vérité. Matthieu dit que les espions étaient des disciples des pharisiens et des hérodiens, car les hérodiens avaient un accès direct aux Romains. Ils étaient de mèche, largement et de façon proche. L'idée était de le prendre sur le fait et les Hérodiens de se précipiter vers les Romains. Et puisque les Hérodiens n'ont pas de questions religieuses en tête de leur liste de priorités, mais plutôt des questions politiques, l'histoire qu'ils rapporteront sera beaucoup plus crédible venant des Hérodiens. Cette petite expression « feignait d'être juste » était commune à l'époque parmi les fausses religions, et elle l'est toujours. Ils feignaient d'être juste. Ce qu'ils voulaient, c'était le piéger, l'attraper en flagrant délit d'une déclaration qui permettrait de le faire arrêter, et livré aux autorités romaines, et exécuté en tant que meneur d'une rébellion, un rebelle. Pilate, comme je l'ai dit, était présent. Ils allaient utiliser Pilate pour tuer Jésus. Mais écoutez ceci. Ils n'avaient pas besoin de faire tuer Jésus pour inverser la tendance. Ils le voulaient mort, et ils verraient leur souhait accompli. Ils avaient simplement besoin de le faire arrêter, c'est tout. Les Juifs attendaient. La populace, le peuple, attendait que le Messie vienne pour renverser le pouvoir des gentils, afin que le royaume promis par les prophètes soit établi, afin qu'Israël soit délivré des nations et qu'Israël soit élevé au-dessus de toutes les nations. Toutes les personnes qui prétendaient être le Messie devaient être prêtes à appeler à briser le pouvoir des gentils. Tout véritable Messie verrait Rome comme un usurpateur, intrus, païen, blasphémateur, idolâtre, impie et rejeté. Le Messie devait par nature être un révolutionnaire. Il devait prévoir d'établir le royaume, de briser la domination des gentils, de mettre fin à l'idolâtrie pour l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est vrai, les prophètes ont dit cela lors de sa prochaine venue. C'est ce que Jésus fera. Les prophètes disaient aussi qu'il viendrait et qu'il ferait un sacrifice pour le péché la première fois. Mais ils ne considéraient que la fin. Tous les Juifs étaient unanimes pour affirmer que le Messie viendrait pour détruire les blasphémateurs païens qui dominait ce territoire et élèverait à nouveau la loi de Dieu et le royaume de Dieu ici. Ils savaient que c'était ce que le peuple voulait, et ils assumaient que Jésus serait forcé d'être en accord avec cela. Si Jésus voulait que l'on continue à le voir comme le Messie, il devait être en accord. Mais ils ne pensaient pas que Jésus était le Messie. Ils étaient certains qu'il n'était pas le Messie. Ils pensaient qu'il était juste un homme qui essayait de faire croire aux gens qu'il était le Messie et, afin de jouer le jeu jusqu'au bout, il serait forcé d'adopter le point de vue populaire, de devoir renverser le pouvoir de Rome. Tout ce qu'ils avaient donc à faire, c'est de le mettre dans une situation où il serait poussé à dire cela. Et une fois que les Romains l'arrêteraient, et qu'il montrerait que Rome est plus puissant que lui, et qu'il n'a pas de pouvoir sur Rome, le peuple changerait de point de vue en une minute. Ce sera alors terminé et les Romains le tueront. Ils cherchent donc le bon moment. Cela nous amène au quatrième péché, la flatterie. Ils trouvent finalement le bon moment, verset 21, ces gens lui posèrent cette question. Remarquez comme ils le flattent. Maître, ce titre était réservé aux plus hauts placés des rabbins. Ils l'élevaient. Cela dut être difficile pour eux de faire cela. Ils le haïssaient. Mais ils ont dit ce qu'ils pensaient nécessaire. Il y a deux raisons pour lesquelles ils parlent ainsi. Ils veulent élever Jésus dans sa tête pour qu'il se sente fier, afin qu'il agisse de la façon qu'ils ont prévue. 2. Ils veulent montrer qu'ils sont d'accord avec le peuple, car c'est ainsi que le peuple le voit. Maître. Le peuple pensait qu'il était enseignant, et un enseignant astucieux. C'est le point de vue populaire que vous avez ici. Ils nous disent ce qu'était la pensée conventionnelle, ce que les gens pensaient. Tu parles et enseignes droitement, et tu ne regardes pas à l'apparence. Mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. C'est une flatterie absolue, celle qui détruit. C'est aussi la vérité, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils disent est vrai. Il est enseignant. Il parle et il enseigne de façon juste. Il n'est pas partial envers qui que ce soit. Et il enseigne selon la volonté de Dieu, en vérité et rien d'autre. C'est vrai. C'était aussi de cette façon que les gens le voyaient. Tu parles et tu enseignes droitement. C'est orthos en grec, orthos. Je mentionne ce mot car il a donné le mot « orthopédique » qui signifie « droit » ou « juste ». Cela a aussi donné le mot « orthodoxe » qui vient de deux mots « orthos » et « doxologie » ou « doxa »,« rendre honneur à Dieu ». Lorsqu'on parle de vérité orthodoxe, on est impartial envers qui que ce soit. Le texte de Matthieu varie un peu et dit littéralement en grec « tu ne regardes pas au visage des hommes ». Autrement dit, tu n'ajustes pas ton message au genre de réponse que tu reçois, ou selon à qui tu parles. Tu ne corromps pas ton message à cause de l'opinion des hommes ou des conséquences possibles. Tout ceci est absolument vrai. Ils ne le croient pas. C'est une idée populaire, mais c'est aussi la vérité. Puis, ils arrivent à leur idée principale. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Quels hypocrites pleins de haine! Tout ce qu'ils veulent, c'est flatter Jésus et exalter son ego pour le forcer à faire quelque chose qui soit en accord avec le portrait qu'ils font de lui ouvertement et en public, afin qu'ils ne perdent pas la face, qu'ils ne perdent pas la réputation qu'ils viennent d'établir de lui. Une fois qu'il a été flatté en public et enflé dans son ego publiquement, il ne va pas vouloir contredire cette recommandation exaltée. Il le mène dans une situation où il est forcé de leur donner une réponse juste, une réponse juste qu'ils pensent être en accord avec Dieu, et ils savent que cette réponse juste est celle que le peuple donnerait, et, s'il veut gagner le peuple, il doit la donner aussi. Maintenant, lié au péché d'hypocrisie et de flatterie, se trouve le péché de tromperie, c'est le 5e, verset 22. Voici la question. Je me demande combien de temps cela leur a pris pour arriver à cette question. C'est vraiment intelligent. De leur point de vue, c'est le mieux qu'ils pouvaient faire. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Souvenez-vous qu'ils sont venus en faisant semblant d'être justes, au verset 20. Mais dans le verset 23, Luc dit qu'il a aperçu leur ruse. Nous arrivons alors au 5e péché, la tromperie. Ils veulent que Jésus prononce une parole contre Rome. Puis, ils vont faire un rapport sur lui et le faire arrêter. Et les Romains l'exécuteront, parce qu'il y a tant de personnes qui le suivent. Le plus grand honneur qu'on pouvait faire à un professeur émérite était de lui poser une question. C'était le plus grand honneur qu'on pouvait lui faire. Poser une question, peut-être une question difficile, et particulièrement une question sur la loi de Dieu. C'est ce dont il s'agit. Est-ce légal? Non pas selon la loi romaine, mais est-ce légal selon la loi de Dieu? Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Dans leur esprit, il n'y avait qu'une réponse possible, non. Ils savaient que le peuple dirait non. Nous sommes forcés de payer des impôts à César. Nous ne devrions pas payer d'impôts sur le grain, l'huile, le vin, la terre et le revenu que Dieu nous donne est la terre même de Dieu. Cette terre et tout ce qu'elle produit appartient à Dieu. Et nous ne devrions pas la donner à des gentils idolâtres, une puissance occupante opprimant le peuple de Dieu sans aucun droit sur la terre de Dieu. Le peuple se lèverait comme un seul homme pour dire non, ce n'est pas légal, mais nous sommes forcés de le faire. Le fait est que les Juifs avaient en horreur de payer l'impôt à Rome, non seulement parce qu'ils avaient du mal à se séparer de leur argent, mais parce qu'ils ne voulaient pas le donner aux païens, idolâtres et occupants. Le mot utilisé ici, impôt au pluriel, est un mot générique, phoros, un mot générique signifiant impôt. Il y en avait beaucoup, il y avait un impôt sur la terre, un dixième du grain, un cinquième de l'huile et du vin, une taxe d'importation dans chaque port, à chaque frontière et à chaque porte de la ville. Il y avait un prix à payer pour toutes les marchandises qui les franchissaient. Il y avait un impôt d'1% sur les salaires et il y avait une taxe par tête, une taxe par personne. Tout le monde l'a payée. Elle était d'un denier par an. C'est cette taxe par tête que Joseph et Marie sont allés payer à Bethléem au moment de la naissance de Jésus. Matthieu utilise le mot « impôt ». C'est en fait le mot « kensos » qui a donné le mot « recensement ». Il n'aimait pas du tout payer l'impôt à Rome, car les Romains étaient un peuple blasphémateur, idolâtre et impie. Joseph nous raconte une histoire intéressante qui a eu lieu avant la naissance de Christ. Un homme appelé Judas de Galilée est venu. Il menait une insurrection contre les Romains sur la base du fait qu'il ne devrait pas être obligé de payer l'impôt. Il dit « Dieu est notre seul Seigneur et Maître ». Et il se révoltait contre le paiement du recensement et de tout autre impôt. Car il dit qu'il finance littéralement le paganisme et l'idolâtrie. Eh bien, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et toutes les personnes qui essayaient de poursuivre cette rébellion se dispersèrent dans tous les sens. Mais le sentiment que Judas a répandu est resté et couve dans le cœur des gens. Ils se sont tous souvenus de cela, même si cela s'est passé 30 années auparavant. Cela faisait partie de leur histoire familière. Vous souvenez-vous lorsque Judas a essayé de nous dégager de la nécessité de payer ses impôts? Et Flavius Joseph, l'historien, dit qu'en 66 après Jésus-Christ, lorsque la grande révolution a commencé et qui s'est terminée en l'an 70, lorsque les Romains sont venus et ont détruit Jérusalem et ont massacré le peuple, cette insurrection de l'an 66, c'est-à-dire 72 ans après Judas, a commencé sur le même principe, le sujet de l'intolérance de l'impôt. Cette conviction couvait donc dans le cœur du peuple, car c'était la routine quotidienne, un rappel constant de la réalité de l'occupation romaine et de l'idolâtrie. Les Juifs voyaient vraiment l'impôt de Rome comme une trahison contre Dieu, le seul vrai roi d'Israël. Les leaders étaient sûrs que Jésus se sentirait obligé de donner le point de vue populaire, que lorsqu'il demanderait « Devrions-nous payer l'impôt à César ?» ajouté au fait qu'on venait de lui dire « Tu parles de la vérité de Dieu ?» Tu ne parles que de façon juste, orthodoxe, et tu n'es pas intéressé par les conséquences. Il serait bloqué dans un coin. Et dès qu'il va dire ce qu'il doit dire, c'est-à-dire non, il n'est pas juste de faire cela, cela va contre la loi de Dieu, alors ils enverront les Hérodiens voir les Romains. Les Romains viendront et en voyant la foule, assumant qu'il est en train de répandre ce genre de choses et qu'une nouvelle insurrection est sur le point d'éclater, ils l'arrêteront et au moment où ils l'arrêteront, tout le monde saura qu'il n'est pas le Messie, c'est certain, parce qu'il est vraiment une victime aux mains des gentils. Ils l'ont donc mis dans cette situation. Le Seigneur a détecté leur tricherie. Matthieu dit qu'il a aperçu leur ruse. Luc appelle cela une tricherie. Matthieu va plus loin que la tricherie pour parler de la méchanceté qui les motive. Il savait ce qui était en eux. Comment connaissait-il leur tricherie? Parce qu'il savait ce qui les animait. Dans Jean 2, verset 25, il est écrit « Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il est Dieu, et il le montre. » Au verset 23, il est écrit « Jésus leur répondit « Montrez-moi un denier. » Ils ont probablement dû aller en chercher un parmi la foule, car les Juifs n'aimaient pas les porter sur eux. C'était des pièces romaines, et c'était comme porter une petite idole dans la poche. Il n'y avait plus d'idolâtrie en Israël depuis la captivité à Babylone, historiquement. Ils portaient des pièces en cuivre et des shekels hébreux. Vous avez déjà entendu ce mot. Ils n'aimaient pas porter des pièces romaines. Le denier correspondait en gros à un jour de salaire. C'était une pièce de valeur faite d'argent et parfois d'or. Il était utilisé entre 300 ans avant Jésus-Christ et 300 ans après Jésus-Christ. Pendant près de 600 ans, 6 siècles. Les pièces étaient frappées par l'empereur et selon qui était l'empereur, elles étaient frappées de son effigie. Toute la lignée des Césars avait leur visage frappé sur les pièces qui étaient frappées pendant son règne. Elles portaient l'effigie de l'empereur sur une face et les inscriptions et les informations les identifiant sur l'autre face. Comme je l'ai dit, les Juifs n'aimaient pas les avoir sur eux, car elles étaient comme de petites idoles. Mais Jésus dit « Trouvez-en un, montrez-moi un denier ». De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Tout le monde connaissait la réponse à cette question. De César. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, les espions et les inquisiteurs qui étaient présents, et probablement tous les autres, ont pu venir, pas seulement les espions. Ils sont tous là, et ils se frottent les mains en pensant « Il suit le chemin que nous avons prévu qu'il prendrait. Il les identifie comme appartenant à César, et est donc un blasphémateur et idolâtre. » Au fait, César Auguste avait des pièces frappées à son effigie en 17 avant Jésus-Christ, où il s'identifiait lui-même comme étant le Fils de Dieu, ce qui rendait ces pièces particulièrement répulsives aux yeux des Juifs. Tibère César avait des pièces qui l'identifiaient comme grand prêtre de Dieu. Puisque Jésus proclamait être le Fils de Dieu, et puisqu'il disait être un médiateur entre les hommes et Dieu, certainement voit-il, s'il est le véritable Messie et un véritable prophète de Dieu, certainement voit-il ces pièces idolâtres pour ce qu'elles sont vraiment. C'était une bonne ruse. Mais il ne s'attendait pas à sa réponse au verset 25. Il est écrit « Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Mes amis, la profondeur de cette affirmation ne doit pas être perdue à cause de sa simplicité. Quelqu'un a dit, « Est-ce que cela signifie qu'il faut payer l'impôt ? » Cela va même plus loin. Mais la réponse est oui. Cela va bien plus loin. « Rendre » est le verbe grec « apodote », qui signifie « redonner parce que nous le lui devons, parce qu'il lui appartient, retourner, restaurer. » Il y a certaines choses dans ce monde qui appartiennent à ce monde. Il y a des choses dans ce monde qui appartiennent à la terre, qui sont mondaines. Il y a des choses qui appartiennent à la providence de Dieu, au monde temporel. Il faut faire son devoir temporel sous la providence de Dieu dans l'histoire. Le divin Dieu lui-même a mis Israël sous la législation romaine. Dieu les a amenés là. César est leur roi terrestre. César est leur législateur terrestre. Et ils doivent soutenir son règne, car tout gouvernement est ordonné par Dieu. Romains 13. Les pouvoirs en place sont ordonnés par Dieu, et ils ne portent pas l'épée pour rien. Le gouvernement est ordonné pour protéger l'innocent et punir le méchant. Les Romains ont fait cela. Ils étaient tout-puissants militairement et ils produisaient la paix et la sécurité, la protection et de longues routes, des canaux pour les bateaux, et ils ajoutaient à la prospérité de la vie. Tout cela coûtait, et il fallait payer pour ça. Nous comprenons cela. Nous vivons dans deux mondes différents en tant que chrétiens. Nous vivons dans un monde terrestre et nous sommes obligés, nous devons à ce monde ce qui appartient à ce monde. Et dans la providence de Dieu, il se trouve que nous sommes aux États-Unis d'Amérique et s'ils veulent l'argent de mes impôts pour payer les autoroutes et réparer les ponts et tout le reste, alors c'est leur droit. Et c'est un monde dans lequel je vis. Est-ce qu'il honore Christ ? Est-ce qu'il élève Dieu ? Non. Mais il n'est pas supposé le faire. Le paiement de l'impôt fixé par le gouvernement terrestre, même un gouvernement idolâtre, blasphémateur, communiste, opprimant, autocrate, même celui qui est païen, même celui qui est sur le point de tuer le Fils de Dieu, reste un gouvernement établi par Dieu. Et nous lui devons la dette qui leur revient. Dans 1 Pierre, chapitre 2, des versets 17 à 18, il est écrit « Honorez le roi, serviteur, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Que ce soit une démocratie avec un congrès, ou les autorités locales, la police, un dictateur communiste, ou un César. L'autorité de César lui vient de Dieu. Et nous devons ce que nous devons selon la providence de Dieu, ce que le gouvernement demande et ce que nous payons. Jésus affirme le rôle du gouvernement, le droit du gouvernement à collecter les impôts pour ses besoins, car il est ordonné par Dieu pour le bien-être de l'homme et pour la protection. Sans cela, nous avons l'anarchie, le chaos et la destruction. Vous vous dites, et quand le gouvernement nous demande de faire ce que Dieu interdit ? Ou quand le gouvernement interdit ce que Dieu demande ? Alors on se trouve dans la situation d'Actes 5, 29, et on juge si on doit obéir à Dieu ou aux hommes. Si on me demande d'arrêter de prêcher, alors je dirai, désolé, j'ai un ordre qui vient de plus haut. C'est à cet endroit que se trouve l'intersection entre les deux. J'obéis à Dieu, faites de moi ce que vous voulez. Depuis la fin du gouvernement théocratique de l'Ancien Testament et jusqu'à l'établissement du futur gouvernement théocratique de Christ, lorsqu'il reviendra pour établir son royaume sur terre, aucune société n'est sacrée. Aucune société n'est sacrée. Nous vivons dans deux mondes. Nous sommes des citoyens de ce monde temporel avec un gouvernement humain, alors qu'en même temps nous sommes citoyens du royaume de Dieu sous le règne de Dieu lui-même et de Christ. L'Église n'est pas supposée prendre le pouvoir du gouvernement civil. L'Église n'est pas supposée de se rebeller contre le gouvernement civil. L'Église n'est pas destinée à devenir le critique du gouvernement civil. Nous ne sommes pas supposés contrôler le gouvernement civil, que ce soit par la guerre, la désobéissance civile ou le pouvoir politique. Il n'y a pas de société sacrée. Il n'y a pas de royaume théocratique. L'Amérique n'en est pas une, ni aucune nation terrestre. Donnez à César ce qui appartient à César, et remerciez Dieu que, par la grâce de Dieu, vous êtes sous le gouvernement que vous avez. Car il y a de bien pires endroits dans le monde et dans l'histoire que celui-ci. Quelle que soit la situation, nous sommes connus comme de bons citoyens. C'est le message de l'apôtre Paul à Timothée et à Tite, si vous vous souvenez. Plus important, cependant, c'est le message qu'il veut leur donner. Une autre invitation gracieuse et miséricordieuse. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pourquoi donner à Dieu ce qui lui appartient? Qu'est-ce qui lui appartient? Votre âme, n'est-ce pas? Votre âme, votre être éternel. Tout comme vous devez certaines choses au gouvernement, vous devez certaines choses à Dieu. Vous devez au gouvernement ce que le gouvernement possède, et il vous dira ce qui lui appartient au travers des lois qu'il impose. Vous devez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Vous appartenez à Dieu, vous appartenez à Dieu. Il leur dit, pourquoi ne pas plier le genou devant le plus grand? Le plus important, l'ultime trône, rendez l'honneur à Dieu. Nous devons à Dieu le culte, la louange, l'adoration, la gloire, l'obéissance, l'amour, la confiance. Je lui donne toute ma vie, tout. Ils ne donnaient pas à Dieu ce qu'ils demandaient, leur cœur, leur âme, leur vie. La pièce appartient à César, vous appartenez à Dieu. La pièce est marquée de l'image de César, vous êtes à l'image de Dieu. La pièce est à César, vous êtes à Dieu. C'était une invitation, c'est une invitation qui vous est présentée aujourd'hui. Et cela a conduit à un dernier péché, la haine, l'orgueil, l'hypocrisie, la flatterie, la tromperie. Sixièmement, l'entêtement. Je vais terminer tout de suite. L'entêtement au verset 26. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple.
Mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.
J'aurais voulu que ça dise qu'ils se sont repentis. Ils étaient têtus. C'est une situation qui ne peut pas être rachetée, une irrémédiable situation. Ils sont partis frustrés, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à le saisir sur le fait d'une parole face au peuple et qui aurait provoqué son arrestation et son exécution. Au lieu de partir, émerveillés en disant « Sa sagesse est saisissante, c'est renversant, et nous avons des obligations envers Dieu, nous devons regarder à nos obligations envers Dieu, il reste têtu. » Cela correspond au vieux mot de l'opiniâtreté, l'entêtement. C'est un ensemble de péchés qui sont sans espoir, sans espoir. Au fait, lisez Luc 23 au verset 2. Au verset 1, finalement, ils amènent Jésus à Pilate. Nous allons voir ce qui s'est passé entre-temps, bien sûr. Ils l'amènent à Pilate au verset 1. « Ils conduisirent Jésus devant Pilate, ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. » Mensonge flagrant, mensonge effronté. Ils savaient que c'était le moyen de le faire arrêter et exécuter. Et s'ils ne voulaient rien dire, ils inventeraient. Est-ce que ce n'est pas de l'entêtement? Devenir menteur effronté pour rejeter Christ. Une telle haine est incompréhensible dans un sens, mais il s'agit d'un ensemble de péchés irrémédiables qui finiront par les conduire dans le plan de Dieu au succès, et ils le feront arrêter, exécuter, et la foule criera pour réclamer son sang, et les accepter à nouveau comme leur héros spirituel. J'espère que personne ici ne s'éloignera de Christ. Choisissez votre camp, vous êtes soit pour lui, soit contre lui. Père, c'est une expérience si riche et puissante pour nous d'assister à cette confrontation. Qu'elle soit appliquée dans chaque vie directement, de façon délibérée, d'une manière significative. Seigneur, nous ne voulons pas nous mettre du côté des têtus qui rejettent Christ. Nous voulons venir à Christ. Seigneur, fais ton œuvre dans le cœur de toute personne présente ici qui le rejette encore. Qui ne puisse pas trouver de confort dans ce rejet. Sois miséricordieux envers eux et qu'ils viennent à Christ dans l'amour, la repentance et la foi. Nous prions en son nom. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, Connectez-vous à une grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.